Nous sommes une sorte de contradiction interne dans la société.
On n'est pas des cadeaux.
La structure de base de la société, la famille, ne nous convient pas.
Sur Radio Canu, la plus...
Encule.
Oh
enculé.
Oh enculé. Ou enculé.
Enculé.
La plus... Les radios.
C'est pas parce qu'on est contre le mariage entre un homme et une femme qu'on est forcément hétérophobe.
On n'est pas des cadeaux.
On n'est pas des cadeaux.
Émission transpédéguine et féministe.
Malade dans un hôpital français. C'est quoi ce pays de merde?
Oui, non, d'abord, il ne faut pas dire des choses comme ça. Hein. C'est pas bien.
Merci. Moi, je m'en vais. Vous êtes un assassin.
Aujourd'hui, le président d'ACT UP affirme qu'il n'avait rien prémédité.
Que fait une Gwyn secouriste pour sauver des vies?
Qui bouche à bouche.
Oui.
Aujourd'hui, nous revenons sur la production de textiles dans un monde capitaliste mondialisé, une production signe de colonialisme et d'exploitation. Signe aussi de travail gratuit et de main-d'œuvre féminine méprisée en Asie, en Afrique et en Europe de l'Est. La pénurie de masques pendant la pandémie de Covid a ramené brutalement cette question du travail gratuit en Europe dans un grand élan d'effort national. Parce que, ne l'oublions pas, dans n'importe quelle crise, il y en a pour s'enrichir et que les inégalités se creusent toujours plus.
Pour gouverner, il faut avoir manteaux et rubans sous toi. Pour gouverner, il faut avoir manteaux et rubans sous toi. Nous en tissons pour vous, grands de la terre, et nos pauvres canuts sans drap, on nous enterre. C'est nous les canuts, nous allons tout nus. Mais notre règne arrivera quand votre règne finira. Mais notre règne arrivera quand votre règne finira. Nous tisserons le linceul du vieux monde et l'on entend déjà la révolte qui gronde. C'est nous les canuts, nous n'irons plus nus. C'est nous les canuts, nous n'irons plus nus.
Une émission sur le textile sur Radio Canu, autant dire que nous en revenons à nos ancêtres. Il y a eu plein de scandales sur les productions alimentaires, une prise de conscience collective pour manger mieux, soutenir des filières plus locales, revenir à des exploitations à taille humaine. Et pourquoi pas sur ce qu'on porte aussi? Pourquoi ne pas se réapproprier les savoir-faire des canuts? Pourquoi ne pas imaginer une filière de fringues plus locale et sans exploitation? Et toi, tu savais que tes t-shirts étaient tricotés et pâtissés? Tu savais que le coton, c'est pas écolo du tout?
Et pire, que c'est historiquement un des fondements du commerce triangulaire, alors qu'aujourd'hui on déboulonne enfin des statues des figures esclavagistes.
Tu savais que le futal que tu portes, qu'il coûte 8 ou 140 balles, il est produit dans les mêmes usines en Asie par des personnes surexploitées?
Nous connaissons souvent les tailles et les matières de nos fringues, ce qui fait peu de savoir sur cette filière textile. Voilà une émission pour recadrer nos croyances et nos idées reçues et se surprendre à un nouveau regard sur notre garde-robe.
Bah ouais, parce qu'on a envie de s'habiller bien, de mater des émissions de mode, de se trouver beaux et belles dans nos fringues. Pour autant, on n'est pas obligé de suivre les modes printemps, été et automne-hiver des grandes enseignes qui vendent en neuf. Pas obligé de renouveler en permanence nos garde-robes. On peut avoir du style sans suivre la mode.
Alors voilà, une émission textile et on avait envie de passer par un petit morceau fictionnel et historique. Donc on va ponctuer l'émission de plusieurs extraits du livre « Le laboureur d'eau » de Oura Baraka, où le personnage principal vit dans les ruines de Beyrouth pendant la guerre est seule et se rappelle de sa vie et notamment de Shamsa, la bonne de sa famille qui tente de séduire en lui contant l'histoire millénaire des tissus. Bonne écoute. Les premiers hommes à revêtir du lin lui reconnurent de grandes propriétés thérapeutiques. Ils remarquèrent Shamsa, qu'il favorisait la cicatrisation des blessures et l'utilisèrent pour calmer les ulcérations des lépreux. Il devint symbole de pureté et sa blancheur en fut plus éclatante encore. Même s'il ne peut pas guérir toutes les plaies de la peau, il demeure le tissu le plus proche de sa substance, le plus à même de fraterniser avec sa chaleur. Le lin est caressant. Il est fils des quatre éléments et des quatre directions de l'univers. De la Baltique à la Méditerranée, c'est le plus vieux et le plus noble des tissus. C'est de la terre que sa graine tire sa force. Il bourgeonne en mars et la plante est récoltée en juillet. Sa fleur éphémère est bleue, mais quelques heures après la floraison, le champ vire couleur or. 5 semaines après la floraison, on fauche la plante depuis le pied comme le blé. Des graines, on tire du fourrage pour les bêtes, de l'huile et des produits gras. Après la terre, l'eau dans laquelle on place les tiges, trempées jusqu'à ce que croissant, elles deviennent un enchevêtrement de fibres au bout de 7 semaines. Elles rendent l'eau couleur du soleil couchant. Puis on les laisse se craqueler sous le soleil de l'été afin que le libère se sépare des fibres de jute et de leur écorce. Après avoir séché et pris une teinte qui varie entre le roux et le gris bleuté, on égraine et on le bat pour extraire les fils de fibres. Sais-tu que les Kurdes sont les premiers à avoir tissé le jute ? Oui, ton peuple. Les Berbères sont demeurés les seuls nomades de la terre, alors que partout, les agriculteurs ont fondé des villes. Le lin est alors devenu linceul pour les morts gisant en leur tombe, alors qu'autrefois, on entourait les cadavres de peaux de bêtes et qu'on les enterrait en position fœtale. Votre lin provenait originellement de Perse, ainsi que me l'a rapporté mon père. Puis il fut introduit en Égypte et Pythagore le rapporta en Grèce. Il y a 5000 ans, les pharaons, qui avaient appris d'Isis le tissage du lin, tissaient le lin pour en faire les voiles de leurs navires sillonnant le Nil, les voiles de la vie. Ces tisserands en Égypte sont des Coptes, c'est ce que m'a raconté mon grand-père maternel. Les Coptes craignaient l'éclat d'Alexandrie et redoutaient d'être réduits en esclavage dans les ateliers impériaux. Comme ils n'avaient pas suivi l'église byzantine et refusaient de se soumettre à son dogme, ils s'exilèrent dans les coins les plus perdus de la terre d'Égypte et trouvèrent dans le tissage, filage, puis tressage, puis ponçage, leur indépendance et une forme de résistance pacifique. Ils s'adonnèrent à leur tâche avec tant de cœur et de maîtrise que leur lin était d'une finesse incomparable et son fil d'une souplesse inégalée. Ils le doublaient parfois de laine pour l'alourdir et le broder en même temps. Les Arabes, à leur tour, parvinrent aux filatures des Coptes, Adamites et jusqu'au Delta. C'est là qu'ils exportèrent le lin solidement tissé des Coptes que l'on appelait Pokalemou. Il était teint de couleurs sublimes, variant avec la température et les heures de la journée, et on l'offrait au calife fatimide. C'est contre eux que les Coptes fabriquèrent ce que l'on appela ultérieurement la chemise, portée par les soldats francs sous leur armure de métal, alors qu'ils rôtissaient sous le soleil du delta. Les experts n'ont-ils pas dénombré jusqu'à 108 fibres doubles sur un seul centimètre de lin pharaonique ? Jusqu'à la fin du siècle dernier, le lin resta tentation pour les reines et gagne-pain pour les fileuses, jusqu'à ce qu'arrive le règne du coton, porté par les révolutions de la fin du siècle. Le coton, au prix abaissé par la traite des nègres, les échanges internationaux, particulièrement avec l'Amérique, mèneront à ce que l'on renforce le coton avec des engrais et des insecticides qui ravagent la terre. À jour et entrelac, tulle et guipure, la dentelle en fil de lin entraîne les rêves jusqu'au tournant de ce siècle. Mais les machines de notre ère étaient trop dures et trop rapides. Elles brisèrent le cœur du lin qui ne put tant en supporter. Ta chemise en lin vaut cher, Shamsa, et elle convient parfaitement à tes épaules. Mais ces ajours, sais-tu qu'ils viennent du plus profond des tombeaux de l'Égypte ancienne ? Le premier hiéroglyphe est composé de 2 fils, l'un sur l'autre. La première tablette d'écriture traite des manches des vêtements. La question du mélange de l'air au lin, du mariage de l'air et du lin, ne sera définitivement tranchée qu'à Venise.
Rencontre avec Marianne, couturière de métier et costumière, qui nous parle des processus de fabrication dans la filière textile conventionnelle, au service d'intérêts uniquement financiers. Marianne a réalisé une conférence gesticulée, Le textile, ça tombe du ciel, où elle se situe. Et au travers de son parcours, tisse un fil de pensée par arborescence. Aujourd'hui, elle détricote pour nous la pelote de l'histoire esclavagiste et coloniale du coton. Nous l'avons également interrogée sur le travail gratuit, synonyme de mépris dans les filières textiles. Et pour nous donner de la force, elle imagine une autre organisation du travail, mais aussi d'autres plantes, telles que le chanvre et le lin, des couleurs végétales, une esquisse d'une filière qui fonctionnerait sans exploitation, respectueuse des êtres humains et de la planète.
J'ai un diplôme de modéliste, j'ai travaillé un tout petit peu dans un bureau d'études, ça ne m'a pas convenu du tout. Je voyais très bien qu'on me programmait à faire de l'obsolescence programmée. Et ça, j'ai fait demi-tour direct et je suis retournée à la couture, en fait à la base. Mais avec ma formation de modéliste, ça veut dire que je sais aussi faire des patrons. Je sais imaginer des vêtements, c'est le rôle du styliste. Et du coup, je me retrouve un peu à tout faire, puisque j'ai aussi appris à tisser. J'ai appris à teindre avec des végétaux et j'ai pas appris à filer. Donc je fais pas le fil. Je suis encore obligée, et j'espère que ça durera longtemps, de m'adresser à d'autres pour faire une partie du boulot. Et je ne suis pas obligée de travailler toute seule en autarcie. Mon rêve, c'est plus l'autonomie que l'autarcie. Je ne veux pas tout faire. Je le fais par contrainte. Alors, les enjeux d'exploitation dans la filière textile, ils ne datent pas d'aujourd'hui. Ce n'est pas une nouveauté. Je m'intéresse beaucoup à l'histoire, parce que je pense que pour penser le monde de demain, comprendre le monde d'hier va me permettre d'imaginer un monde de demain qui tient la route et qui ne retombe pas systématiquement dans toujours les mêmes écueils. Je vais partir du coton plus que de la filière textile parce que ça me paraît un très bon indicateur. Et sur les métiers à tisser européens, le coton est arrivé au XIIe siècle en Italie et il a remplacé la laine. Un peu plus tard, il est rentré dans les métiers allemands où il a remplacé le lin. Et encore un peu plus tard, il est arrivé sur les métiers anglais, où il a remplacé un peu les deux. En Europe, ni en Italie, ni en Allemagne, ni en Angleterre, il n'est pas possible de faire pousser du coton. Le coton, c'est une plante tropicale qui a besoin de chaleur, et d'une chaleur constante en plus, et d'humidité. Et ça, en Europe, on ne l'a pas. Quand on fait rentrer le coton en Europe, on est obligé de faire venir la matière première d'ailleurs, ce qui oblige à avoir de plus en plus d'intermédiaires. Ça, c'est un enjeu de la production aujourd'hui, les intermédiaires. On voit bien avec la mondialisation et avec la crise sanitaire qu'on est en train de vivre que le transit des matières premières pose problème. Il faut ajouter à ça ce qu'on appelle les enclosures, c'est-à-dire à la fin du Moyen-Âge, il y avait beaucoup de terres communales. Donc communales, il y a commun. Ces terres communes, elle permettait à des tas de gens un peu faibles, qui ne possédaient pas forcément des terres ou des moyens de production, ça leur permettait de survivre, tout simplement. Les enclosures, ça a été « tout doit appartenir à quelqu'un, donc on va clôturer les terres communes ». Et ça, c'est un enjeu qu'on retrouve aujourd'hui. Les communs, qu'est-ce qui est commun? L'eau est privatisée. Si on enlève les communs, et que les plus faibles ne peuvent plus survivre, les plus faibles, pour pouvoir survivre, il va falloir qu'ils trouvent d'autres moyens. L'autre moyen, c'est travailler à la manufacture. Parce que les intermédiaires, ils ont très bien compris que leur intérêt, c'est pas de se promener de maison en maison pour ramasser ce qui a été filé, le donner à quelqu'un qui a un métier à tisser, ensuite revenir, récupérer la matière qui a été tissée, l'emmener chez quelqu'un qui sait coudre, qui va le coudre, et ensuite le récupérer, le ramener dans un endroit où ça va pouvoir être vendu. Ça, c'est compliqué. Il vaut bien mieux, pour un intermédiaire, rassembler les métiers à tisser, rassembler les gens qui filent, rassembler les gens qui cousent, et rassembler les gens qui achètent. Donc, pour pouvoir faire ça, il faut que les faibles ne soient plus en mesure de survivre et acceptent de venir travailler pour quelqu'un d'autre, avec des horaires, dans des lieux qu'ils n'ont pas choisis, juste pour pouvoir survivre. Ah ouais, c'est le coton qui l'a inventé, c'est pas la filière textile, parce que la filière textile, elle ne marchait pas comme ça. c'était plus du travail à domicile, c'était du travail dans la manufacture. Et puis les manufactures, elles ont grandi. Et comme on a alimenté avec les plus faibles la manufacture, on a pu faire concurrence au travail à domicile. Et les gens qui travaillaient à domicile et qui arrivaient à survivre, eh ben, ils se sont retrouvés à plus pouvoir survivre et à être obligés d'aller travailler à la manufacture. C'est comme ça que les manufactures ont pu grandir. En matières premières, il a fallu faire pousser de plus en plus de matières premières dans des lieux de plus en plus lointains et dans des lieux de moins en moins adaptés à la plante. Ça, c'est important. Il a fallu irriguer. C'est comme ça qu'aujourd'hui, on se retrouve avec des problèmes d'eau considérables. Faire pousser du coton en grande quantité, ben, ça a donné lieu au commerce triangulaire, à l'esclavagisme. Le commerce triangulaire, il fonctionnait de la manière suivante. C'est plutôt en Inde au départ. On fait pousser du coton, on ramasse le coton, on l'emmène en Hollande ou en Angleterre. Ce qu'on appelle les tissus africains, les wax africains, ce sont des tissus hollandais, anglais, européens, qui servaient au commerce triangulaire. On prenait ces tissus, on allait en Afrique, on échangeait les tissus contre des hommes, qu'on n'appelait pas encore des esclaves, on les mettait dans des bateaux, on les emmenait aux Antilles, on les échangeait contre du sucre ou contre du coton. Le coton, c'est aux Amériques et aux Antilles. Le coton a servi de plante pionnière. On commençait par faire pousser du coton et ensuite on faisait pousser de la canne à sucre. Donc on échangeait les hommes noirs qui étaient devenus des esclaves contre du sucre ou du coton qu'on envoyait en Europe où on fabriquait des tissus. Mais le coton, c'est lui qui a servi de modèle, de laboratoire pour arriver au modèle dans lequel on vit aujourd'hui. Le coton a permis de passer de l'esclavagisme au salariat. Pendant la guerre de sécession, les propriétaires terriens des champs de coton, dans le sud des États-Unis, ont été expropriés. Quand on a aboli l'esclavage, les Noirs ont espéré qu'on allait leur distribuer un petit lopin de terre pour qu'ils puissent survivre. Eh bien, ça ne s'est pas passé comme ça. On a restitué les terres aux propriétaires terriens et les esclaves qui, avant, travaillaient pour rien, se sont mis à être obligés de travailler pour un salaire. On est passé de cette manière-là à l'esclavagisme, au salariat. C'est ça la liberté qu'on nous propose. Servi à créer les marchés, les bourses qu'on connaît aujourd'hui. Wall Street, tout ça, ça a été bricolé autour du coton. Au départ, les intermédiaires, qu'on peut appeler des marchands, ils achetaient du coton sur le quai des ports. Et ils choisissaient leur coton à vue. Ils le touchaient, ils le regardaient, ils le sniffaient, c'est tout ce que tu veux. Et puis petit à petit, on s'est mis à vendre le coton alors qu'il était encore dans le bateau. Et puis on s'est mis à vendre le coton alors qu'il était encore dans le champ. Et puis on s'est mis à vendre le coton avant qu'il soit semé. C'est ça qu'on appelle les marchés à terme. C'est une invention qui a été faite autour de la filière coton. Et c'est une invention qui nous conduit aujourd'hui à des spéculations, y compris sur les denrées alimentaires, qui sont ravageuses pour tout le monde, sauf pour quelques-uns qui font leur beurre avec. Et qui, avec cette crise sanitaire, vont encore réussir à faire du beurre. Avant la guerre de sécession, les États-Unis fournissaient une énorme partie du coton qui était utilisé un peu aux États-Unis du Nord et beaucoup en Russie et en Europe. Les proportions des gens du commun des mortels qui participaient à la filière textile en Europe, c'est énorme. C'est dans les 90% en France ou en Russie. On ne mesure pas aujourd'hui l'importance que ça a pu avoir au 19e siècle. On parle souvent des mines de charbon, Mais les filatures, c'est pas mieux, voire c'est pire, ça emploie des enfants. Enfin, c'est vraiment... c'est ce qu'on retrouve aujourd'hui dans les pays du Sud. Je pense au Bangladesh, au Vietnam, et qui nous permettent de pouvoir acheter à 2 balles des t-shirts qui vont durer 5 minutes. Pendant la guerre de sécession, il y a eu un blocus des États du Nord qui ont fait que, un blocus plus une guerre, il n'y a plus de coton en provenance des États-Unis. S'il n'y a plus de matières premières, ça veut dire que 90% de la population n'a plus de travail. Et ça, même si leur travail c'est l'esclavagisme, s'il n'y a même plus ça pour survivre, ben c'est une catastrophe sociale. Du coup, il faut trouver un approvisionnement en matières premières et on va le trouver en boostant le colonialisme en Algérie, par exemple. Après la guerre de sécession, il y a un boost sur le colonialisme qui est énorme. En Inde, on va chercher à augmenter la production, la productivité. Jusque-là, en Afrique, on n'a pas tellement cherché à produire du coton. Mais là, on va se dire, ben, on ne sait plus quoi faire, ben, vas-y, on va en Afrique, ça pousse là-bas. L'esclavagisme, c'est de la surproduction et... quelque chose qui est en lien, c'est une pénurie permanente. Le capitalisme est en mutation permanente et il a sans arrêt besoin de matières premières supplémentaires. Il n'est jamais satisfait.
J'ai été poursuivi, asservi, enlevé à l'Afrique et livré. Le matin au lever, j'accomplis mes corvées, ma vie est rivée. Y'a pas de champ de canon, j'achère. Tous les jours on y laisse et sa sueur et sa chair. Et nos pauvres corps meurent sans repos ni fraîcheur. Avec chapeau et foulard pour contrer la chaleur. Descendant de ces féroces croisières négrières, on garde force et courage en chantant à plusieurs. Il n'y a pas que le salaire pour creuser nos malheurs. Nos anciens tortionnaires sont nos nouveaux employeurs. Après avoir brûlé les barrières, arraché la lanière du fouet, levé les paupières vers la lumière et venir embrasser le rêve d'une vie meilleure où le nègre serait une bannière à ses propres couleurs. On a mangé la poussière de la pire des manières, peu fier de retourner dans la plantation d'hier. La mer est une frontière, comment aller ailleurs? Désormais libre, ouais, mais toujours inférieur. J'ai été poursuivi, asservi, enlevé à l'Afrique et livré pour un sac de sucre. Le matin au lever, j'accomplis mes corvées et ma vie est rivée à un sac de sucre. J'ai été poursuivi, asservi, enlevé à l'Afrique et livré pour un sac de sucre. Le matin au lever, j'accomplis mes corvées et ma vie est rivée à un sac de sucre. Où va le fruit de mon labeur? La douleur de mes bras et mes lombaires, la lourdeur de mes jambes et toutes ces longues heures à ratiboiser la canne pour battre ma misère. Et les blancs sont aisés, malins et rusés, ont belle maison et timoun scolarisés, soi-disant qu'il ne faut rien leur refuser. Moi j'ai la peau sur les os, sous une chemise usée. J'ai aidé les voisins, rassemblé mon réseau. J'ai sorti mon coutelas, aiguisé mes ciseaux et pris la décision sans trouble ni confusion de baptiser le béquet d'une belle incision. Malfaisant, insolent, sur son trône installé, estimant comme son bien des terres qu'il a volées. Son destin sera le mien dès qu'il sera esselé. Il va entendre et comprendre et il pourra bien gueuler. Je laverai l'affront, je vengerai l'Afrique, les fonds de cale et le travail forcé à coups de trique. Et si le rhum et l'argent coulent à flot, c'est que j'ai un sac qui pèse un massacre sur le dos. J'ai été poursuivi, asservi, enlevé à l'Afrique et livré pour un sac de sucre. Le matin au lever, j'accomplis mes corvées et ma vie est rivée à un sac de sucre. J'ai été poursuivi, asservi, enlevé à l'Afrique et livré pour un sac de sucre. Le matin au lever, j'accomplis mes corvées et ma vie est rivée à un sac de sucre.
Dans le courant du XXe siècle, ça s'inverse et les pays du Sud deviennent des producteurs pour les pays du Nord. La production de la matière première, ça ne peut pas se faire en Europe quand il s'agit de coton. Si tu vois des fringues en coton et qu'on te dit que c'est fabriqué en Europe, rigole, s'il te plaît. Aujourd'hui, on arrive à faire pousser du coton en Espagne et en Grèce. C'est un coton qui est super subventionné, qui n'est pas rentable du tout et qui est destiné à faire baisser la valeur du coton là où il pousse naturellement, entre guillemets. C'est comme ça que les Africains, ils produisent pour rien un coton d'excellente qualité, mais ça ne peut pas être valorisé parce qu'il y en a trop, en fait. Toute la transformation ne se fait pas en Europe. En ce moment, elle est en train de revenir par les pays de l'Europe de l'Est où la main-d'œuvre n'est pas chère. Le prix d'un pantalon, ça peut passer de 8,65 € à 150 €. Et je sais qu'il est fabriqué avec les mêmes matières premières, par les mêmes gens. Il y a juste un truc qui change, c'est l'étiquette. Donc la différence de prix, ben, c'est l'étiquette. Une étiquette, c'est pas très cher hein, quand même. Merde. Au Bangladesh, par exemple, on commence par laver le coton, ce qui est polluant. Ensuite, il faut le filer. Et je crois que la filature, c'est la manufacture la plus terrible. Celle où il y a le plus d'accidents, celle où il y a le plus d'enfants qui travaillent. Quand on fait travailler des enfants, c'est les plus bas salaires. Le salaire augmente un petit peu quand on fait travailler des femmes. Et le salaire est plus élevé, si on peut dire ça, quand c'est des hommes. Du coup, on va avoir intérêt à faire travailler des femmes et des enfants. C'est moins cher. Ça fait des siècles hein, que ça dure. Et ensuite, il va falloir les tisser, les couper, les coudre, les vêtements. Les tisser ou les tricoter, parce que souvent les t-shirts, c'est tricoté, c'est pas tissé. Et là encore, ce sont des enfants et des femmes, parce que les salaires sont moindres. Déjà, ils sont pas chers là-bas, mais ça leur suffit pas. Il faut encore les diviser par 2 ou par 3 ou par 4. Si c'est pas du mépris, je sais vraiment pas ce que c'est. Et ce modèle-là est en train de glisser vers nous. Pendant la crise sanitaire, j'ai vu arriver le travail gratuit en France. La filière textile est en train de nous bricoler le modèle de demain, là, sous mes yeux. Et je suis super inquiète de voir du travail gratuit. Par exemple, il y a plein de gens, parce qu'ils ont bon cœur, qui ont fabriqué des masques, des surblouses pour les soignants, gratuitement. D'accord, on a bon cœur, mais on a aussi un estomac qu'on a besoin de remplir. Et si on se met à travailler gratuitement, je ne sais pas ce qu'on va devenir. Qui c'est qui va pouvoir acheter ce que tout le monde est amené à produire gratuitement s'il n'a plus de ressources? J'ai lu un bouquin, je l'ai prêté et puis on ne l'a pas rendu et j'aimerais bien le relire. C'est Giulia Montsitieri qui l'a écrit. Ça s'appelle « Le plus beau métier du monde ». C'est vrai que le monde de la mode, ça fait rêver beaucoup de gens. Je ne vais pas dire tout le monde quand même, mais une grosse majorité d'ados rêvent de rentrer dans le monde de la mode, sans savoir que le travail gratuit, il est là. Les mannequins qui ne sont pas payés, les mannequins qui payent pour pouvoir travailler. Toi tout seul, tu ne vas jamais trouver un taf. Il faut que tu payes un agent qui va peut-être te trouver un engagement où tu vas gagner des clopinettes et tu auras payé l'agent quand même. Donc les mannequins, les photographes, mais les stylistes aussi, on n'imagine pas que les stylistes travaillent gratuitement, et pas qu'un petit peu, pour des grandes enseignes, et ils sont payés en prestige. Quelquefois, les mannequins, on leur offre une paire de godasses de je ne sais quelle marque, je ne citerai personne. Ils sont payés en prestige, et ils sont contents. Ils sont contents de participer au prestige de la mode. Merde. Donc, ce qui nous attend, ici comme partout, je devrais dire, c'est les filatures du Bangladesh et le travail gratuit. C'est le modèle qui se profile.
Elisabeth, devant sa garde-robe, à 7h32 s'arrache les cheveux. Elisabeth, devant sa garde-robe, elle sait jamais ce qu'elle veut. C'est parce qu'elle a trop de pulls, de chemises, de culottes, de chaussettes, de chaussures et de frocs. Elles sont ses jambes qui se dérobent à 8h. chaussures et de frocs, gris de manteau, de nudo, de débardeur, de robe et de tailleur, de foulard, de maillot, de jambière grise, Elisabeth.
Je rêve, en fait, sans arrêt, une autre filière, une autre façon de produire des vêtements. Dans mes rêves les plus fous, tout le monde participe un petit peu. Ça ne veut pas dire que tout le monde sait coudre, parce qu'en fait, coudre, c'est l'étape finale. Il pourrait y avoir un ingénieur qui imagine une machine pour défibriller le chanvre. S'il n'y a pas d'agriculteur, il n'y a pas de textile. Il pourrait y avoir un menuisier qui fabrique des outils. Il pourrait y avoir un informaticien qui nous bricole un super site internet pour expliquer la complexité de ce qu'on est en train de fabriquer. Quand j'imagine cette nouvelle filière, je m'appuie sur ce qui se passait au Moyen-Âge, où en fait, la filière, elle reposait sur tout le monde. C'était pas quelqu'un qui fabrique et quelqu'un qui achète. C'était tout le monde qui contribuait à la fabrication d'un produit fini. En envisageant la filière textile de cette manière, non seulement on peut produire dans le respect de l'environnement et des humains, mais en plus on peut faire du lien entre nous. On pourrait produire du chanvre textile, cannabis avec un K en grec, et bien ça veut dire plante textile. Du coup, avec le chanvre, évidemment qu'on peut faire des textiles de toute nature. Au Moyen-Âge, on savait faire des toiles de chanvre qui rivalisaient de finesse avec la soie. Pourquoi, au XXIe siècle, avec tout le progrès qu'on a eu, on n'est plus capable de faire ça? Et en plus, le chanvre, il n'a pas besoin d'eau, il n'a pas besoin d'intrants, il n'a pas besoin d'engrais, de pesticides, de fongicides, d'insecticides, toutes ces saloperies chimiques. Pour faire pousser du coton, il faut de la pétrochimie. Puis ensuite, pour le transformer, il faut de la pétrochimie. Si on reste autour du coton, on reste avec la pétrochimie. Comment sortir de la pétrochimie? Avec le chanvre, c'est possible. Avec les teintures végétales, c'est possible. Il y a le lin aussi qui pousse très bien en Europe du Nord. Il y a des tas d'alternatives, en fait. Voilà, donc des champs de chanvre à la place de tous les champs de maïs. Moi, j'adore me balader en forêt, dans les prés, dans les champs, tout, partout, et regarder autour de moi et me dire « Ah, tiens, c'est là ». Cette plante-là, ah, elle pourrait faire du jaune. Ah, celle-là, elle pourrait faire du vert. Alors là, je vais revenir à mes amours. Au modélisme, c'est-à-dire la fabrication des patrons qui sont normalisés. Il faut que tu fasses une taille 38 ou une taille 42 ou une taille 54. Mais il faut que tu rentres dans la taille 38, 42 ou 54. Alors que tu as peut-être un gros derrière et une petite poitrine. Dans toute ma carrière, je n'ai jamais rencontré une taille 38, ni une taille 42, ni une taille 54. Ça n'existe pas. Nos corps, on les oblige à rentrer dans des vues de l'esprit. Pourquoi? On pourrait très bien faire autrement. Il y a la demi-mesure. Dans la conférence gesticulée, j'en parle. Il s'agit de faire des fringues en série, mais de ne pas les finir. Parce que moi, quand je fais de la retouche pour remettre aux mensurations de la personne quelque chose qui a été fabriqué aux normes, il faut que je défasse toutes les finitions. Donc si on ne les finit pas, les fringues, eh ben, on peut les ajuster à chacun. On peut continuer de fabriquer en série, parce que c'est vrai qu'on gagne du temps. Et du coup, on n'est plus obligé de rentrer dans des trucs qui ne nous vont pas. C'est le confort.
Alors voilà, on vient d'entendre l'interview de Marianne qui est couturière, on a entendu Kazay, on a entendu le son des machines à la filature dont on va vous parler tout à l'heure. On a écouté Amélie les crayons. On pourrait encore discuter sur les tailles standardisées, mais pour commencer de créer une filière autonome, tu nous as préparé un petit tuto pour faire la maintenance de ta machine à coudre.
Ben oui, parce que ces derniers temps, j'ai pas mal cousu. Alors j'ai une vieille machine avec des fleurs orange et marron. Elle est solide, mais surtout je la tiens de celle qui m'a montré comment coudre. Cette personne est morte et me remettre sur sa machine, ça me fait un rituel. Alors je couds pas très bien, mais j'ai envie de m'y mettre et d'être plus rigoureuse. Sauf que, comme tous les objets qu'on garde pour un jour s'en servir, elle prenait la poussière. Face à des soucis récurrents style boucle de fil sous le poing ou aiguille qui casse, je me suis dit qu'il était temps de faire l'entretien. Le protocole, une machine, ça se graisse ou huile toutes les 8 heures de couture. En effet, la poussière et les minuscules morceaux de tissu se baladent dans les rouages métalliques et à force de mouvement, quand même 1000 tours minute, elles abîment la machinerie. J'ai envie de vivre longtemps avec cet objet. C'est un petit bijou mécanique. Ce qui est joyeux, c'est que un point est solide lorsqu'il est régulier et beau. Et tout dans la machine est prévu à cet effet. Alors, à la différence du point à la main, l'aiguille de la machine descend et monte sans passer de l'autre côté du tissu. Elle descend, traverse le tissu, maintenue par le pied de biche contre les griffes, et forme une boucle. Un crochet vient agrandir cette boucle et faire le tour de la bobine. L'aiguille remonte en tirant le fil du bas. Le point est fait un peu comme un ruban d'ADN tout le long de la couture. Les griffes descendent et montent sous le tissu pour le faire avancer. Je sais un peu réparer ma voiture, donc démonter et nettoyer cette machine est à ma portée, si je n'écoute pas la peur de casser l'objet, qui n'est pas au mieux de ses performances, mais qui en tout cas marche. Bon, 2020, YouTube, un tuto en anglais, un gars. Vous avez remarqué comme les tutos techniques sont vraiment d'une maigre qualité esthétique et pédagogique, sauf dans les domaines dits féminins ? Étonnant. Bon, alors je me prépare, espace de travail vide et non polyvalent, revue technique, des outils adaptés, dont un moyen de noter quelle vis va où à base de scotch et de plans de coupe dessinés approximativement. Donc une machine, comment ça marche ? Une pédale qui permet de jouer sur la vitesse, un moteur qui transforme l'électricité en mouvement à 3 endroits, les griffes qui font avancer le tissu ou reculer quand on enclenche la marche arrière, un arbre inférieur et supérieur qui par des courroies et engrenages amène l'information jusqu'aux extrémités, l'aiguille et la canette. Concentrons-nous sur le fil du haut. Il traverse le bloc tenseur qui le retient à l'aide de disques et de ressorts pour ne pas avancer trop vite. Puis, il passe dans l'œillet qui maintient la boucle le temps que le point se forme. Il y a aussi un endroit où faire varier la longueur du point ou indiquer où pique l'aiguille. Le rythme et l'espacement du point sont changés. Point droit, ligne droite, zigzag, droite gauche, boutonnier droite gauche, le plus près possible l'un de l'autre. Sur ma machine, ces changements ne sont pas automatisés. La molette de sélection se déplace sur un rail pour donner l'information grâce à une roue crantée, un peu comme une boîte à musique. Une mélodie par point. Me voici, avec la machine sans coque, c'est beau, un peu indécent. L'acétone me monte à la tête. Ma machine est lourde, stable et composée en majorité de métal. Ne pas perdre les minuscules pièces. Comprendre comment le bloc tenseur fonctionne et le remonter et surtout, resynchroniser le mouvement. C'est ce qui coûte le plus cher et est systématiquement annoncé comme devant être l'affaire d'un spécialiste. L'appel aux experts fait craindre les foudres aux bricoleuses du dimanche. Mais il s'avère que les informations dont on a besoin sont indiquées sur nos machines. Alors quand le travail de calmer la peur est fait, tout est possible. J'ai révisé ma machine et elle marche à la perfection.
Eh bien, du coup, on va pouvoir s'entraîner et on continue sur un extrait du roman qui nous explique cette fois-ci la dentelle.
Les irisations et les ombres changent lorsque le tissu est bougé ou lorsqu'il vibre. La vraie soie damassée, celle qui vient de Damas, que nous avons enseignée aux Perses, que nous avons exportée vers le monde entier, est le premier exercice de dentelle, d'acquisition d'une technique d'ombre et de lumière, du négatif et du positif. Mais elle demeure un simple jeu pour l'œil, un simple plaisir pour l'esprit. Elle ne s'est pas élevée au-dessus de son rang de surface plane afin d'y mêler l'air, d'ouvrir l'appétit des rêves vers la concupiscence de la suggestion. L'incitation à venir palper en dénudant ce qui était demeuré encore recouvert. Pour parvenir à la jour, il fallut en passer par Venise, où le mélange de ces deux éléments, que sont l'eau et la terre, se matérialisera en une beauté exceptionnelle. Le calcul de la trame en matière de dentelle exige une grande rigueur, la rigueur nécessaire de la défaite du regard, comme un filet bien maillé et seul à même d'attraper des poissons. Punto in aera, dirent les Vénitiens, un point dans l'air, qu'ils introduisirent dans la lourdeur du brocart et du velours. mais le choisir pour se faire les extrémités du vêtement, là où il touche les points du désir, exactement là où la peau se fait transparente et où bat le pouls. Exactement là où est déposée la touche de parfum, la nuque, la limite de la cambrure des épaules, le cou et cette pente glissante entre les seins lorsqu'ils frémissent, les poignets et la longue ligne de chute des baisers vers l'intérieur de la paume renversée face aux lèvres. C'est là qu'entra la dentelle, c'est là que la vision se mêla à la légende, la peau au désir, les paupières à l'humidité des lèvres. Les seigneurs vendirent leur château, leur terre et leur moulin pour une coudée de dentelle fabriquée par 6 400 000 allers-retours de navettes. Des provinces furent ruinées, des principautés s'effondrèrent, des trônes vacillèrent, dont le puissant trône de France, avant que Colbert, fin politique, ne décida d'arrêter l'hémorragie. Mais faisant ainsi saliver les accapareurs qui fixaient le prix du travail des pauvres dentelières au point de les pousser à rejoindre les sans-culottes et se lancer dans la fièvre révolutionnaire qui se déversera dans les rues comme le magma que vomissent les volcans. Et c'est ainsi, par exemple, que les pauvresses de Bruges, en Belgique, continuèrent à vivre de leur aiguille et de leur crochet, loin du tumulte des révolutions, car elles étaient persuadées que c'était la Vierge Marie elle-même qui avait enseigné à ces pures jeunes filles l'art de la dentelle afin qu'elles en vivent, et parce que les accapareurs de Bruges et de toute la Belgique de cette époque n'étaient pas aussi cupides.
On est toujours dans On n'est pas des cadeaux sur Radio Canu et on réfléchit aujourd'hui sur la production de textiles, la production de coton et autres. Et on va passer à une interview d'une personne qui travaille à la filature.
Même si les productions restent anecdotiques sur les marchés du textile français, les filatures de laine et de chanvre tournent et produisent à des échelles locales. Rencontre avec Soufi, saisonnier dans une filature de laine dans le sud-est, qui nous explique son parcours et les enjeux dans leurs moyens de production des textiles. De la réappropriation de savoir-faire à l'obsolescence programmée.
Donc mon parcours a commencé dans un domaine très différent puisque j'ai fait une école de commerce en région parisienne et à l'âge de 24 ans, je me suis rendu compte que j'avais pas envie de passer ma vie devant un ordinateur, donc je suis parti m'installer dans les Cévennes, dans un collectif de vie dont l'activité principale est l'agriculture et notamment le fromage de chèvre, les châtaignes et le maraîchage. Parallèlement à ça, on m'avait proposé de passer du temps dans cette filature de laine dans les Alpes. Et donc j'y ai été saisonnier depuis 6 ans, pendant 2 mois par an. Alors mon envie de découvrir la filière textile et puis cette activité à la filature est venue d'abord par la petite porte, puisque après l'âge de 20 ans, j'ai commencé à tricoter. Parce que je trouvais que c'est une activité manuelle assez simple à faire dans les transports en commun, dans le métro, à Paris, et qui permettait d'avoir un résultat assez rapidement. Et ensuite, quand je me suis installé dans les Cévennes, j'ai cherché à comprendre J'avais fait des études d'économie et en fait, on nous apprend comment fonctionne le système de production, mais on ne sait rien faire nous-mêmes. Du coup, j'ai cherché à comprendre un peu dans chaque domaine ce que j'identifiais moi comme les besoins fondamentaux d'un être humain. Donc, se vêtir, bouger, se nourrir, se déplacer, se soigner. C'était pour moi des 5 domaines un peu à la fois mystérieux et dans lesquels j'avais envie de faire des choses concrètes. Et la proposition de travailler à la filature est venue un peu dans cette idée d'approfondir la question du vêtement. Je suis allé à un salon de la laine, un des plus grands salons qui a lieu en France à Cray chaque année, dans la Drôme. Et là, j'ai rencontré sur le stand des personnes de la filature de Longomaille. Leurs produits m'ont beaucoup plu, leur manière de présenter leur travail également. Et du coup, je suis resté en contact avec eux. Et c'est comme ça qu'à un moment donné, ils ont partagé l'envie de travailler avec d'autres personnes. Donc à des gens qui vivaient avec moi dans les Cévennes, dans le collectif. Et on est plusieurs personnes à s'être engagées en 2014, si mes souvenirs sont bons, dans cette aventure. Alors, tout ce qui est l'autonomie a été vraiment une claque quand je suis arrivé à filature, parce que je me suis rendu compte que, par exemple, je ne savais même pas vraiment, moi, la différence entre les vêtements tissés et les vêtements tricotés. Que tous nos t-shirts sont en fait des tricots, mais hyper fins, qu'il y a un sage de toute épaisseur, de toutes sortes, avec plein de matériaux différents. Et en fait, l'arrivée d'une filature où concrètement, on fait cette activité de faire du fil et de faire des vêtements, c'était pour moi, en fait, comme si on m'ouvrait les yeux sur tout ce que je portais au quotidien, et en fait, je ne voyais pas ce que c'était. Donc, c'était assez jouissif comme sentiment de comprendre enfin qu'est-ce qu'on met tous les matins et toute la journée sur nous. La filature de Chantemerle a la particularité de faire de A à Z la transformation de la laine. Donc ça commence par le domaine agricole, donc avec la tonte des moutons. Les toisons de laine qui sont transformées à la filature viennent du sud-est de la France, surtout pour le mérinos. Et ensuite, pour certaines couleurs de laine, on doit aller chercher un peu plus loin, en Suisse et en Autriche. Et il y a des éleveurs chez qui chaque année on va récolter la laine, on la trie sur place et ensuite on l'amène à la filature. Ça, c'est le début du travail, donc c'est vraiment le lien avec les éleveurs. Et ensuite, tout au long de l'année, on transforme cette laine. Donc, le lavage a lieu en été, juillet, août principalement. Et cette laine qui est lavée et ensuite compressée, stockée. Et tout au long de l'année, on va faire du fil et tisser ou tricoter ce fil, puis confectionner des vêtements d'une grande variété. Et ensuite, les vendre dans des salons et ou dans la boutique sur place. Donc, c'est aussi un des aspects qui m'a beaucoup plu dans cette filature, c'est les activités et le fait de voir vraiment le travail. Il n'y a pas de sous-traitance comme dans la plupart du temps dans le domaine du textile, où en fait, on met made in France, mais on fait les trois quarts, voire plus, du travail dans d'autres pays. À la filature, on utilise des machines principalement. C'est des quantités qui sont transformées, qui sont très importantes, qui ne pourraient pas être faites manuellement. Et on utilise l'énergie hydroélectrique de la rivière qui passe sous la filature pour pouvoir faire tourner des machines qui datent environ des années 50. Et c'est une époque intéressante parce que il y avait un gros travail d'ingénierie et d'industrialisation, mais on n'avait pas atteint des niveaux notamment d'électronique ou d'informatique qui permettait pas de comprendre les machines. Là, tout est accessible avec des boulons, des rouages. On comprend les courroies, ce qu'elles font sur chaque machine, et ça donne vraiment un sens. On est passé du travail à la main au travail machine, mais sans complètement ne plus voir l'histoire de comment on a transformé la laine dans le monde. Donc on utilise des machines, par exemple, quand on va faire un fil, on transforme 100 kg de laine d'un coup en 3 jours, ce qui permet de faire 150 pulls environ. Nous, on se rend compte déjà qu'il y a certaines machines qu'on est obligé d'acheter chez les producteurs actuels du textile, c'est-à-dire en Asie, et on se demande, les machines, même si on arrive à les réparer et à les bidouiller dans le temps, on se demande si à un moment donné, on va pas plus du tout avoir en Europe de quoi fournir aux machines, on va devoir aller dans des casses en Inde, en Chine, pour trouver de quoi produire du textile en France, et avec l'incertitude sur la possibilité de trouver des machines aussi facilement réparables. Donc l'obsolescence programmée sur du long terme marche aussi sur les machines qui nous permettent de produire nos vêtements, parce que c'est des petits bijoux quand même, et qui ont été très bien pensés, et en fait avec des métaux qui tiennent dans le temps, et avec la manière dont fonctionne actuellement le système industriel, même sur les machines, on n'est pas sûr de retrouver des choses qui soient fiables. Le fait de reconquérir ce savoir-faire et cette autonomie à la filière textile, je pense qu'il ne faut pas attendre trop longtemps, parce qu'après ce sera trop tard et il faudra tout reconstruire. Par rapport à la filière textile et à la production de vêtements en France, évidemment, on est des des toutes petites productions, je dirais anecdotiques même. Mais ça reste un exemple d'une filière locale, écologique, et qui donne des vêtements qui peuvent être faits après des années de qualité, qui sont en plus dans une matière, la laine, qui est très isolante, qui peut durer très longtemps. C'est un exemple qui pourrait être suivi et qui permettrait une relocalisation de la production de nos vêtements. Dans la vallée de la Guisane, qui est la vallée où se trouve la filature de Chantemerle, il y avait au moins deux autres filatures en amont et beaucoup d'autres filatures en aval. En fait, les rivières étaient historiques en France, des lieux de production importants, puisqu'on utilisait l'énergie de l'eau qui est abondante, régulière et gratuite. Et en fait, tous ces ouvrages qui utilisaient l'énergie hydraulique ont été petit à petit abandonnés, détruits, avec des législations qui les ont jusqu'à présent peu encouragés. Et du coup, il pourrait y avoir une multiplication, notamment sur les flux des rivières, de ce genre de petites unités de production. Alors en France, sur la laine, il y a encore une bonne dizaine de filatures qui fonctionnent. Toutes des petites filatures, en général autour de notre taille ou un peu plus grosses. C'est vrai que ces filatures répondent à une réelle demande aussi des éleveurs qui veulent commercialiser des produits avec la laine de leurs moutons, et du coup qui veulent faire transformer des petites quantités de laine à façon. Ensuite, en France, il existe aussi une filière autour du mohair qui est très bien organisée, donc la laine des chèvres. Ils ont formé une SICA et je crois qu'il y a plus de 40 éleveurs qui font partie de cette entreprise, cette coopérative de transformation. Je connais moins en France le domaine du chanvre et du lin. Je sais que dans le nord de la France, il y a beaucoup de lin qui est produit, mais je crois qu'il n'est ensuite pas transformé en France. Je vous parlais plus du tissage puisque c'est ça que je connais bien. On a les tissus très épais pour les couvertures, donc qui sont très résistantes, très gonflantes. Ensuite, on a un tissu un peu plus fin, mais quand même très résistant, d'autant plus qu'on le foulonne, c'est-à-dire qu'on le feutre beaucoup, qui est le tissu qu'on utilise pour tout ce qui est manteau, veste, des vêtements d'extérieur. Et ensuite, on a un dernier tissu qui sont plus fins, qui est quasiment systématiquement 100% mérinos, parce que c'est mérinos et la laine la plus fine et donc la plus douce, qui peut se porter à même la peau. Donc là, on a, avec ce tissu-là, on fait des chemises, des châles, des choses très, très fluides, très fines. Avec les tissus, on aimerait bien, là c'est un petit rêve depuis quelques temps, on aimerait bien faire des baskets, parce que j'ai aussi appris avec une amie cordonnière à faire des paires de chaussures en cuir. Et du coup, on aimerait bien essayer de faire ça avec de la laine bien feutrée et voir comment ça tient dans le temps. Voilà, on vous tient au courant. Alors, les produits de la filature, par exemple, ne sont pas beaucoup plus chers que ce qu'on peut acheter avec une matière équivalente. Par exemple, un pull en laine de la filature coûte autour de 90 €. En général, quand on voit les pulls des marques, en tout cas Bompard, qui font des transformations internationalisées avec souvent de la laine qui vient d'Australie et de Nouvelle-Zélande, standardisées, sont quand même dans ces prix-là. Je pense que les gens ne sont pas empêchés d'acheter à cause du prix, mais plus soit parce qu'ils ne connaissent pas, soit parce qu'ils n'ont pas été sensibilisés du tout à l'intérêt d'une matière telle que la laine, où on peut payer son pull un peu plus cher, mais parce qu'il va durer plus longtemps, il va être très isolant, on va avoir moins froid. Donc je pense que c'est plus dans les habitudes de consommation qu'il y a un travail à faire que sur le prix, parce que je pense que beaucoup de gens se permettent d'acheter des habits assez chers, en fait. Soit pour la marque, soit en général pour la marque, et sur le long terme, ça revient pas moins cher, je pense.
Et ben voilà, on est toujours à On n'est pas des cadeaux, plein de choses sur les textes. Merci. Et on écoute une dernière chanson.
Alors, on écoute Coton Ouaté de Blue Jean Blue.
It's been a talk on what day. Hey, you're like the fire friend. It's been a talk on what day. See the hour, il fait beau. Make a sap or like chou chou. Je m'installe le bout devant ma bee window. Pour savoir si c'est une journée de petite laine ou de kiwi. Je me fie sur le passant le moins habillé. C'est là que j'ouvre ma fenêtre et sans me gêner. Je lui demande comme si c'était mon bombardé. J'ai dit, hey, faites fête. On est-tu bien juste en coton ouaté? Hey, y'a l'air de faire fête. T'es-tu bien dans ton coton ouaté? Lorsque vous êtes ambigu à propos de votre tenue, regardez les gens défiler dans la rue. Un col en vie, un col roulé. Est-ce une bonne journée pour sortir un bustier, un pantacourt ou un pantalon? Grosse combine ou bien bon nylon? Une bonne paire de Kodiak ou un pop blanc dans vos sandales? On se laisse influencer par comment le monde est habillé. Mais pourquoi espionner en cachette? Y'a pas de honte à faire la blette. Dites hey, faites fret. On est-tu bien juste en coton ouaté? T'es-tu bien dans ton coton ouaté? Hey, fais-tu fret? On est-tu bien juste en coton ouaté? Hey, y'a l'air de faire fret? T'es-tu bien?